Bienvenue à un nouvel épisode de Culture Inc., le podcast qui explore le concept de culture organisationnelle. Série spéciale Culture et quarantaine où on échange avec différents intervenants sur la situation exceptionnelle du confinement due au COVID-19 qui touche une grande partie des entreprises de la planète. Ici Mathieu Etu, producteur et animateur de ce podcast. Avant de continuer dans cet épisode, j'aimerais prendre un petit moment pour vous donner une mise à jour du podcast Culture Inc. Cette semaine, on fête les 6 mois d'existence du podcast et j'aimerais vous partager quelques faits d'armes de ces 6 premiers mois. Avec cet épisode-ci, on aura enregistré et publié 18 épisodes, plus de 13 heures avec 26 invités. À ma très grande surprise, on a des auditeurs à travers la planète. Évidemment, l'auditoire québécoise est majoritaire, suivi d'auditeurs de la France. Mais on tient à également saluer nos auditeurs de multiples pays qui nous écoutent assidûment à chaque épisode, provenant de pays tels que les États-Unis, Mexique, Sénégal, Irlande, Maroc, Algérie, Martinique, Suisse, Belgique, Tunisie et bien d'autres. En fait, plus de 35 pays sont représentés parmi nos auditeurs. Et cette semaine, en célébrant nos 6 mois, on a atteint la barre symbolique des 5000 épisodes écoutés. Honnêtement, je m'attendais pas en octobre dernier au lancement de ce podcast sur un sujet bien niche comme la culture d'entreprise d'avoir atteint autant de personnes avec nos entretiens. Merci beaucoup de votre intérêt et écoute de ce podcast. Ça me motive beaucoup à continuer. Si vous avez des commentaires sur le podcast, si vous voulez donner des idées ou des suggestions, ou si simplement vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire mathieu@commercialcultureincpodcast.com en un seul mot et Mathieu avec un T, un seul. Voilà, c'est tout. Je voulais simplement vous remercier de votre écoute active. Prochaine étape, je vous informe lorsqu'on franchit les 10 000 écoutes. Maintenant, de retour à la programmation normale. Épisode numéro 2 de Culture et quarantaine. Depuis le vendredi 13 mars, le Québec et une bonne partie de la planète ont dû se résoudre à changer de manière de vivre et travailler. Au 1er avril, on est en plein milieu de la 3e semaine de confinement. La nouveauté du changement s'estompe et la réalité de la quarantaine à long terme s'installe. Je m'entretiens dans cet épisode avec 2 directrices des ressources humaines qui ont été des actrices principales de l'accompagnement et de la transformation de leur entreprise. Les cas confirmés du coronavirus continuent à grimper en flèche au Québec et l'impact économique commence à se faire sentir fortement. Comment les employés et la culture vivent cette adaptation? On commence l'épisode avec Vanessa Ribrault, vice-présidente ressources humaines chez Ayala Care. Je lui ai demandé dans quelle situation elle et son groupe se retrouvent après 3 semaines de transformation suite au confinement.
Là où on pensait être avec après la discussion avec le comité exécutif, dans le sens où on savait qu'à partir du moment où on allait être remote, le retour dans les locaux allait prendre énormément de temps, et on savait également que les gens avaient besoin d'aller travailler de chez eux pour se sentir plus en sécurité, mais qu'on allait faire face à d'autres challenges, ce qu'on fait face au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est challenge technologique de travailler remote pour certains qui étaient comme habitués à faire ça de temps en temps, mais là qui sont comme à faire ça jour après jour et ne voyant pas de retour au travail possible dans l'immédiat. On a des cas qui vont être très différents aussi, de gens qui souffrent plus d'isolement, qui sont plus, qui subissent la situation qu'on a à l'heure actuelle, socio-économique de confinement. Donc, on a à gérer des challenges de productivité, mais des challenges aussi d'isolement, d'anxiété. Et c'est ce qu'on avait déjà vu venir de, si on s'en va remote, c'est ça qui va arriver. Puis c'est le support des employés, le support des gestionnaires qui va être primordial. Donc, je sais qu'on a comme travaillé de suite sur s'assurer de faire les suivis avec les employés puis apporter du matériel aux gestionnaires qu'ils n'avaient pas forcément.
Ma deuxième invitée avec qui je me suis entretenue est Natacha Brindamour, directrice People chez Districtem, une entreprise qui œuvre dans le AdTech à Montréal. Vous aurez remarqué, Natacha s'est connectée via ligne téléphonique, ce qui la différencie en sonorité durant cette session. Est-ce que elle et Districtem sont présentement dans une situation qu'elle avait prédit au début du confinement?
Suite à ça, je dirais que pour moi, c'est difficile de dire, Mathieu, si aujourd'hui, lorsqu'on a pris la décision de vendredi 13 avril, à ce que le 1er avril, on serait exactement où qu'on est en ce moment. Probablement pas. Par contre, je pense qu'étant une petite entreprise encore, tu sais, d'environ 100 employés, On fait preuve d'agilité, donc rapidement on constate et on ajuste en fait nos pratiques, soit en termes de gestion, en termes de communication, en termes de s'assurer que dans le fond que tout le monde soit bien. Donc je pense qu'au niveau du Tritem, on en est plus là au niveau de la prévision là, de qu'est-ce qui arrive.
La nouveauté du télétravail et du nouveau cadre professionnel s'estompe doucement. Quelle est l'humeur et la motivation des gens après 3 semaines? Natacha nous parle de la réalité des collègues chez District M qu'elle nomme les Districters, et également si différents rôles dans l'entreprise ont eu plus de facilité à s'adapter que d'autres.
Je dirais qu'en ce moment, le mood est vraiment... le moral est quand même assez bien. J'ai même... avant de faire l'émission aujourd'hui, j'ai fait un petit sondage, puis je demandais justement aux gestionnaires s'il y avait à qualifier le niveau d'énergie ou le mood qu'on a en ce moment dans une 3e semaine. Puis j'ai eu quand même un bon 7,5 sur 10 de moyenne, donc je me dis que c'est pas mal quand même. Là. J'ai pas encore fait mon sondage Office Vibe, là, ça va suivre la semaine prochaine, mais selon ce que je vois, là, c'est quand même bien. C'est le changement, là, ça fait partie de nos vies, finalement. T'sais. Donc, forcément, les districteurs doivent constamment s'adapter. Puis, malgré toutes les situations ambiguës dans lesquelles on peut se trouver ou insécurisantes, ils ont comme en eux l'habitude de continuer à foncer. T'sais. Puis, d'ailleurs, c'est une de nos valeurs corporatives là, qui est « be fearless ». Donc, pour la plupart, c'est vrai que pour ça que le moral est bon, puis qu'il y a une bonne adaptation à ce nouveau contexte de travail, là, puis ça va généralement bien. Maintenant, tu sais, il va de soi qu'il y a des équipes qui apprécient plus que d'autres le nouveau contexte de travail, bien évidemment. Les équipes de développement technologique, par exemple, tu sais, apprécient davantage le niveau de concentration dans lequel ils peuvent se trouver lors d'un travail à la maison, versus par exemple, on a quand même une grande équipe de développement commercial qui, eux, ils ont l'habitude d'interagir avec leurs collègues. Et c'est des gens qui ont une force naturelle, en fait, d'établir des connexions, puis de devoir être résigné à la maison à chaque jour sans avoir ce contact humain-là. C'est vrai que ça vient quand même jouer sur leur morale, leur motivation. Mais je crois que chez Tritem, c'est des gens que je pense qu'on a des gens qui travaillent chez nous depuis quasiment la création, là, c'est-à-dire 7 ans. Puis ils ont aussi très à cœur justement à être en ce moment dans une qui est le high-tech, en fait, ou qui est plus difficile dans un cas de COVID-19 parce que le budget dépensé en marketing est souvent réduit dans un contexte actuel. Puis je pense que tout le monde a envie de rouler ses manches, puis de contribuer, puis de foncer, puis de faire l'extra mile, là, de donner son 110% justement pour que nous aider, en fait, à passer à travers ça.
Vanessa? Chez Ayala Care, au niveau de l'adaptation de ses collègues après 3 semaines.
C'est quelque chose que j'ai peut-être pas mentionné au début, mais on est vraiment dans le domaine du healthcare industry. Donc, tous nos clients, on est très, très frontline. Comment dire? Je pense que notre mission et le purpose de ce qu'on fait est encore plus présent. Donc, on sent vraiment les gens encore plus passionnés, la volonté d'aider et la volonté de... On voit qu'on est en train de faire une différence dans la situation actuelle. Donc, les gens se sentent très investis. On a même notre roadmap de produits qui évolue beaucoup à cause de la situation. Donc, les gens sont très animés par ça d'un côté. Après les premiers jours, les gens trouvent un peu plus leur rythme. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués au remote, qui ont dû apprendre à avoir un espace de travail puis se déconnecter parce qu'ils étaient tout le temps en train de travailler finalement sans avoir l'habitude du remote parce qu'ils étaient tellement passionnés par ce qu'ils faisaient. Il y en a, on a beaucoup d'immigrants qui n'avaient pas forcément le setup, ils venaient d'arriver au pays, ils n'avaient pas forcément le setup pour travailler de la maison. Donc, on a dû faire face aussi à ces challenges-là. Au début, ça va, mais là, on arrive à la 2-3e semaine de remote work. Donc là, il y a des besoins qui sont un peu plus pressants. Là où je dirais que j'essaye de faire le plus de recherches possible pour voir comment on peut supporter, c'est les gens qui ont des enfants. C'est vraiment un gros challenge depuis que les garderies et les écoles sont fermées pour les gens de pouvoir continuer de travailler. Donc, c'est pareil, on va aller chercher des best practices. Par exemple, je sais que LinkedIn fait 20 jours off, d'autres personnes, d'autres compagnies, je pense que JSoft fait plein salaire, mais temps réduit. Donc, je dirais que dépendamment de la réalité des gens, on essaie de s'adapter en mettant des choses RH en place qui sont tailored à leurs besoins, parce que la réalité est complètement différente. Donc, oui, c'est difficile pour toutes les business. Je pense qu'on a la chance d'être dans le domaine de la santé où, oui, c'est sûr que le cycle de vente est impacté, mais d'un point de vue produit, il y a des choses qu'on peut aller chercher. C'est ce que je dirais par rapport à l'évolution depuis 2-3 semaines.
Avec les jours qui ont passé, les entreprises ont tenté toutes sortes de pratiques pour garder l'engagement, le focus et la motivation des employés. Est-ce qu'il y a des pratiques qui ont eu des succès et d'autres qui n'ont pas du tout fonctionné?
Ben, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de succès avec une des pratiques qui a été établie, qui est ressortie même de la culture de District M. Là. Donc, nous, on a des 5 à 7 à tous les jeudis qui s'appellent les 5 à 7 Stronger Together, qui est une de nos valeurs. Puis, bon, virtuellement, on a essayé de recréer ça. Puis, tu sais, les gens, ils continuent à chaque semaine. Donc, au fond, tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, quand que tout le monde se retrouve, tu sais, mettons, imagine une cinquantaine de personnes avec des petits écrans qui participent avec leur bière. Mais, tu sais, souvent, tout le monde est sur mute. Puis là, il y a une personne qui parle, on l'écoute. Puis après ça, il y a eu beaucoup de pratiques qui ont été mises sur pied, en fait, pour favoriser justement, pour pallier, en fait, au manque de contact humain. Mais je sais pas que c'est pas un succès, mais c'est plutôt drôle, c'est de voir comment qu'un événement en personne peut se traduire dans un événement technologique, puis pas nécessairement avoir le même output, tu sais, je te dirais. Donc ça a été quelque chose qu'on a observé. Sinon, rapidement, dans la première semaine, on a fait un handbook, en fait, de toutes les best practices, justement, comme tu dis, qui a été divulgué un petit peu partout. Tu sais, je suis encore pas certaine, tu sais, s'il y a des choses qui vont mal à ce stade-ci, qui ont été essayées, puis qui ont déjà vu des échecs. Je pense que c'est un peu tôt pour voir. Je pense qu'en ce moment, on est encore dans une période de learning, on essaye des choses, on regarde, puis tout est bon d'essayer. Moi, de mon côté, je suis plutôt en mode apprentissage, je dirais, de choses qu'on a donné des guidance, justement, tu sais, aux gestionnaires, aux employés. Puis là, je pense qu'ils testent ça, puis peut-être que dans un avenir, je pourrais me prononcer un peu plus sur les choses qui ont peut-être moins marché.
Je serais assez d'accord que ça va prendre un peu plus de recul de savoir s'il y a des choses qui marchent pas forcément. À date, les choses qu'on a trouvées qui marchaient bien, puis c'est vraiment marrant, on est en phase de croissance, puis on est une compagnie globale, mais on n'était pas forcément les meilleurs en communication, de communiquer avec l'Australie, même communiquer avec les différents bureaux. Puis là, d'être tous sur un même pied d'égalité, d'être tous remote, là, le feedback qu'on a reçu sur des pratiques qu'on avait suggéré comme le daily stand-up, là, expliquer aux gestionnaires que la communication va être primordiale, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment important chez la IACARE en termes de valeur, tout ce qui est communication et transparence. Donc, on a un weekly town hall avec le CEO où on parle de manière très transparente de la business, puis tout ce qu'on peut faire pour supporter les employés. Donc ça, c'est super bien perçu. Les gestionnaires ont mis en place pour beaucoup des daily stand-up avec des équipes qui sont à peu près partout. Je l'ai fait aussi avec l'équipe HR, qui se trouve encore plus soudée qu'elle était avant, malgré le confinement. Donc ça, c'était des belles découvertes, des choses qu'on va garder après en termes de communication. Quoi d'autre? C'est sûr que je pense que comme toute compagnie, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait à l'interne qu'on qu'on peut reproduire, mais de manière virtuelle. Donc, le Bureau Clock, c'est ce qu'on fait virtuellement, mais aussi toute l'équipe Internal Solution a mis en place des wellness challenges. Pour nous, vraiment, c'est important de placer l'employé en premier. Donc, on pensait vraiment à, OK, maintenant, avec cette réalité, de quoi ils ont besoin? Puis, avec le confinement et les feedbacks qu'on recevait, tout ce qui était wellness était super important. Donc, on met en place des sortes de challenges pour que les gens soient connectés ensemble et prennent soin d'eux. Donc, le yoga, le steps. On a maintenant des volontaires à l'interne qui donnent des cours de méditation, de HIIT, qui ont un franc succès, puis des virtual gaming channels qui se créent. Donc, on essaie de mettre une graine, puis on a vu des initiatives se faire par d'autres personnes chez Alayaker, ce qu'on trouve formidable. Donc, je pense qu'on continue à s'adapter à la réalité virtuelle, mais ça s'est fait de manière assez rapide. Les gens qui disent bonjour le matin avec le screenshot de comme 15 personnes dans Zoom pour partager dans le channel, on a vu j'en reviens encore à la communication. Je trouve que ça a vraiment bien marché puis que ça a rapproché les gens dans un sens.
Télétravail dans un contexte de confinement, pour certains, c'est synonyme d'isolement et possiblement de solitude. Comment les entreprises peuvent détecter et pallier à cette situation?
Je pense que toutes les organisations en ce moment prennent très au sérieux la santé physique et mentale de leurs employés. Je pense que premièrement, on a un devoir en tant qu'employeur de faire un rappel sur qu'est-ce qui est disponible comme ressource auprès de nos clients justement qui vivent sur le confinement, que ce soit un stress supplémentaire, que ce soit peu importe que la situation leur fait vivre en fait, puis que c'est néfaste à leur santé mentale. Je pense qu'on a un devoir en tant qu'employeur de faire la communication régulièrement en fait. De qu'est-ce qui est disponible pour eux. Donc, tu sais, d'un côté, nous, on a fait un rappel justement de notre couverture d'assurance à ce niveau-là. On a aussi, le gouvernement a mis un numéro aussi auquel les gens peuvent appeler si jamais ils vivent des troubles psychologiques reliés à l'isolement, reliés à n'importe quel type de trouble psychologique relié à la COVID-19. Donc, je pense que ça, c'est premièrement super important, donc de communiquer sans cesse ça, parce qu'une personne qui est en détresse, des fois, c'est par un peu ses repères, puis c'est d'avoir ça sous la main, ça peut être vraiment très important. Après, ben, c'est super important d'éduquer et de sensibiliser les gestionnaires à identifier les employés qui auraient besoin à terme de support. Puis, tu sais, ce serait quoi leur rôle en tant que gestionnaire? C'est quoi les étapes, tu sais, qu'ils pourraient faire justement avec un employé qui souffre d'isolement ou qui souffre d'autres troubles psychologiques? Notamment chez Tricem, tu sais, tous les gestionnaires ont été mandatés de poser des questions aux employés sur leur bien-être. Leur rappeler aussi, tu sais, souvent, justement, les gens sont tellement motivés à vouloir contribuer. Puis nous aussi, on est une entreprise produit où on a des roadmaps et qu'on veut continuer à achieve justement nos sprints et tout ça. Puis les développeurs ils souhaitent constamment justement contribuer, donc faire beaucoup plus de développement qu'ils étaient habitués de faire. Mais là, c'est important aussi de leur rappeler de prendre des pauses. De faire de l'exercice, puis de penser à eux, malgré que ce qui peut être super intéressant pour ce qui est intéressant pour eux en ce moment, c'est vraiment la tâche qui est le travail, parce que tout le reste, justement, est un peu absent parce qu'il y a moins de contact social, il y a moins de possibilités aussi de se réaliser à travers d'autres passions, par exemple. Donc, je pense que c'est super important de premièrement, d'éduquer les gestionnaires, puis après ça, justement, de les outiller à ce moment-là pour qu'ils puissent détecter ça. Aussi, ce matin, par exemple, à la communauté de gestion de Twitter, j'ai partagé aussi un article pour les aider, justement, à les éduquer sur comment gérer le stress, justement, dans les équipes. Je constate aussi, j'ai plein d'exemples justement au niveau des équipes de développeurs, des gestionnaires qui les gèrent, qui sont très attentifs pendant un huddle, pendant un meeting Zoom, un sprint, C'est des gens qui sont plus silencieux d'habitude, qui donc sont vraiment assez sur le qui-vive, je dirais. Puis après ça, j'engage des conversations avec des personnes avec qui je pense. Et puis, c'est au pire, il engage une conversation qui finalement, la personne, elle va super bien. Là, puis c'était juste plus silencieuse parce qu'elle n'avait pas grand-chose à dire par rapport à ce qui se passait dans le brainstorm. Mais on a mieux over-communiquer finalement, puis over-prendre soin de nos gens que d'être plus absent.
De notre côté, par rapport à l'isolement, je dirais que ça a touché les personnes de manière différente. Ça va dépendre de la personnalité. J'ai beaucoup de personnes qui sont extraverties, notamment dans l'équipe RH, qui seront plus du office management. Puis le cœur de leur rôle, c'est d'être en contact avec des gens directement. Donc, je dirais que j'ai pu le voir de proche, comment ça pouvait toucher les gens. Ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre de leur quotidien, ça dépend de la situation personnelle aussi. Une personne qui est célibataire et qui est en colocation avec des gens qu'elle connaît pas forcément depuis longtemps, on voit des situations très particulières qui sont plus personnelles. Donc, ce qu'on invite à faire par rapport au gestionnaire, c'est de vraiment avoir cette communication, d'encourager la communication. Ce qu'on a fait dans le département RH, par exemple, d'autant plus, c'est de commencer nos daily stand-up à le partage de comment on se sent, parce qu'on supporte beaucoup les gens. Mais c'est important pour moi que l'équipe se sente supportée aussi. Donc, on a un petit moment où chacun parle de comment on se sent. C'est vraiment un safe space. Et c'est ce qu'on donne aussi aux gestionnaires de... C'est correct d'être vulnérable. On encourage la vulnérabilité. C'est OK de pas toujours se sentir bien. Il y a des réalités qui sont différentes. Il y a des gens qui peuvent pas rentrer chez eux là où ils sont originaires. Il y a des gens qui ont de la famille qui sont malades. Donc, ce sentiment d'impuissance puis d'être enfermé chez eux, on essaie juste de que ça sorte un petit peu, qu'ils aient une plateforme pour discuter. Donc, travailler d'un point de vue avec les gestionnaires en tant que partenaire d'affaires RH. Ce qu'on a fait aussi d'un point de vue plus initiative RH, c'est on a pris la liste des employés, on est une dizaine dans l'équipe RH, puis chacun a rejoint une quarantaine de personnes, puis on fait ça au fur et à mesure, de faire des touch points, puis les gens ont vraiment apprécié d'avoir une écoute, une personne RH qui les contacte pour savoir vraiment comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être plus confortables à la maison. Donc, ce feedback-là qu'on a pu recevoir, ça nous permet, nous, de faire des recommandations puis de mettre des choses en place, mais aussi de commencer à identifier des gens qui vont un petit peu peut-être moins bien et de faire des touch points plus réguliers et en plus d'être souvent en contact avec les gestionnaires pour savoir comment leur équipe vont, comment ils ont besoin d'être supportés. Et finalement, d'un point de vue plus compagnie, on a fait un partenariat avec Mindspace qui offre des séances de mindfulness toutes les semaines et aussi du support psychologique. On a présenté ce qu'on faisait, ce qu'on offrait avec nos benefits pour assurer ça, mais aussi il y avait un partenariat privilégié et on a aussi rappelé aux gens qu'on avait Dialogue qui vous pouvez utiliser cette plateforme-là s'ils voulaient avoir une consultation, s'ils avaient des doutes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment les aider de différents angles.
Confinement, télétravail, nouvelle réalité autant pour les employés que les gestionnaires. En fait, qu'en est-il de la gestion dans ce nouveau contexte?
Une petite anecdote avant que je rentre un peu plus dans le sujet de qu'est-ce que ça a changé pour les gestionnaires. Quand on a annoncé que le lundi suivant, on rentrait en télétravail, je pense que j'ai eu 2-3 pings de managers qui me disaient comment je gère la performance. C'est des gens qui étaient sur des performance improvement plans. Comment je gère la performance à distance? Puis qui étaient vraiment demandeurs de je sais pas comment je vais gérer la situation. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis super proactif de leur part d'avoir cette conversation-là. Puis c'est là où on réalise de comme, OK, c'est différent le non-verbal ou ce qu'on peut observer sur le lieu de travail nous informe de beaucoup et comment apporter ça de manière virtuelle. Donc, il y a du travail avec les gestionnaires de comment tu vas monitorer un peu plus la performance de tes équipes, comment tu vas les motiver. Ça va être différent d'un groupe à un autre. Je travaille beaucoup avec les développeurs, donc ils ont voulu un peu se reposer un peu plus sur Git Prime. Donc, il y a des outils spécifiques pour certains développeurs. Ce que nous, on était en train de faire, c'était de roll out career path, puis la définition de chacun des rôles. Donc là, on est vraiment, d'un point de vue RH, ça nous aide vraiment d'avoir ce passage à une culture qui est beaucoup plus de performance. Donc, on invite les gestionnaires à dire, tu sais maintenant, c'est quoi les attentes du rôle. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il faut juste que tu aies une conversation de manière plus présente, que tu te rappelles de comme c'est quoi qui est attendu dans le rôle et de continuer à avoir tes one-on-one comme tu le faisais avant et te reposer peut-être sur d'autres outils si tu as besoin d'avoir cette feedback loop. Mais il y avait quand même de l'appréhension pour les gestionnaires de gérer leurs équipes à distance. Je te dirais que ceux qui ont déjà des pratiques en place de one-on-one, de setter des objectifs, que la définition du projet est claire, pour eux, ça roule. Puis d'autres qui n'ont pas forcément encore mis en place ces choses-là ou qui sont un petit peu plus juniors en gestion, qui se rendent compte de ces petits trous-là, puis on les accompagne de manière un peu plus proactive et on est un peu plus présent avec eux pour les aider à adresser ces blind spots qu'ils peuvent avoir. Donc, je dirais que la situation met en lumière les choses qui fonctionnaient pas forcément super bien et ça récompense ceux qui avaient déjà une structure pour leurs équipes, pour gérer des équipes à distance.
Natacha Prenamour, à propos de la responsabilité de coaching des gestionnaires.
Le coaching, c'est possible à distance, là. Mais pour développer les soft skills, oui, tu as zoom, tu as la caméra, puis tu vois comment que la personne réagit à ton coaching, mais tu es vraiment capable d'avoir un côté humain, de s'assurer justement de vraiment bien émettre ton coaching envers la personne que tu veux coacher. Je pense que pour les soft skills, c'est pas super, c'est juste vraiment être assuré d'avoir une bonne intelligence émotionnelle puis de continuer à regarder le non-verbal des gens, mais pour s'assurer que le feedback se rende bien de la façon que les gestionnaires le souhaitent. Par contre, tout ce qui est du coaching au niveau du hard skills, c'est moins évident. Si tu dois montrer comment, je sais pas moi, coder, tout ça, tu peux partager ton écran et tout ça, mais c'est ce que j'ai entendu, c'est que c'est plus facile quand que t'as l'employé à côté de toi puis que tu sais que vous traversez à travers justement certaines tâches ou certains hard skills que tu veux lui montrer. C'est plus facile de le faire en personne. Puis, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que les gestionnaires ont plus de difficultés à prendre le pouls des équipes. C'est sûr que quand un meeting arrive, ils font attention, ils regardent les caméras, ils regardent un non-verbal et tout ça. Mais souvent, les signes apparaissent dans des moments où tu n'es pas toujours sur ton radar. T'sais, ça peut être lorsque justement la réunion finit, les employés retournent à leur poste de travail, tu vois qu'ils traînent un peu plus leurs pieds, qu'ils regardent le téléphone avant d'ouvrir leur écran, qu'ils ont une discussion un peu en chuchotement avec un collègue. Donc, tu es capable, en tant que gestionnaire, de voir ça, de prendre le pouls, tu le sens, tu le vois, tu observes à autre part que dans les réunions officielles. Parce que là, en télétravail, les réunions sont les moyens d'observation sont plutôt de façon formelle lors de ces réunions-là. Fait, ils ont plus de difficultés à prendre le pouls, je dirais. Donc, il faut, à ce moment-là, se munir de plusieurs initiatives, de communiquer, de s'assurer d'avoir un environnement de trust pour que les employés peuvent s'ouvrir quand on leur tend les perches, quand on leur pose des questions. Parce que sinon, on a l'impression de ne pas toujours pouvoir saisir des opportunités, justement, de pouvoir être proactif dans des cas qu'on n'arrive pas à saisir. T'sais.
La pandémie due au COVID-19 cause un ralentissement économique majeur et une onde de récession se pointe au loin. Certaines entreprises ont coupé rapidement dans les emplois actuels. Est-ce que certains employés ont peur pour leur poste actuel et quel type d'intervention ou de communication avez-vous fait pour répondre à cette peur?
Je sais que c'est quelque chose qu'on a adressé dans tous les town halls, je pense, avec le président. On est plutôt transparent là-dessus parce qu'on monte les chiffres des ventes. Puis par exemple, on a dit on est passé remote maintenant on va faire un hiring freeze, sauf pour certains rôles. Donc on prend vraiment en connaissance qu'il y a de l'insécurité par rapport à ça. On rassure quand on peut, comme on veut être en mode plus économie, parce qu'on sait pas où ça s'en va, on n'a pas forcément de visibilité. On essaie de passer cette conscience-là aux employés de comme on est chanceux dans le domaine qu'on est, dans le domaine de la santé. Mais en tant que business, on veut être conscient de les choix qu'on fait, les décisions qu'on fait. C'est pour maintenir la business le plus longtemps possible, de faire des choix qui sont éclairés. On parle de, oui, il y a certaines personnes qui vont être, où on va réassigner différentes tâches dans le sens de, on est tous des adultes, on vous partage l'information qu'on a, on vous explique pourquoi on prend certaines décisions. Donc, je te dirais que on essaie d'être le plus transparent. On sait que c'est une possibilité. Les employés savent que c'est une possibilité à un moment donné, si ça se passe vraiment mal, qu'on se rende là. On le cache pas. Les gens le savent. On essaye un maximum d'un point de vue RH d'aider à la réallocation des personnes sur différents rôles. Et oui, on discute d'un point de vue exécutif de c'est quoi le cash flow, c'est quoi la projection, c'est quoi nos les mesures qu'on va devoir prendre à un moment donné si jamais ça va vraiment moins bien d'un point de vue économique.
Le rôle de gestion des humains, pour ne pas dire des ressources humaines, est également lié à la gestion de la sous-performance des employés. Lorsque celle-ci est présente trop longtemps, un licenciement est souvent l'action posée. Si la situation actuelle devait perdurer plusieurs mois et que de la sous-performance est détectée, est-ce que votre processus de licenciement serait différent d'avant le confinement?
C'est sûr que tu veux mettre plus de high care, high touch. On en discutait justement de les personnes qui sont éventuellement en permis de travail. On va vouloir mettre l'humain. Je pense qu'on va faire un extra mile si on se rend là pour l'humain. Compte tenu de la situation, on connaît les personnes donnent tout ce qu'ils peuvent, puis certains, c'est comme malheureusement, ça marche pas. Donc oui, on va gérer la performance comme si on était pas dans cette situation-là, mais je te dirais que s'il y a un exit à faire à un moment donné, on va travailler un peu plus sur l'humain puis apporter le support nécessaire compte tenu de la situation.
C'est quand même clairement une question de performance. Je pense que les personnes qui ont beaucoup de succès, c'est des personnes qui performent bien. Après ça, dans la gestion de la performance, comme j'expliquais un peu plus tôt, on était quand même assez bien équipés au niveau justement de nos frameworks, que ce soit avec les OKRs, que ce soit au niveau des KPIs. Donc, c'est très facile à gérer, que ce soit à distance, que ce soit en face-à-face. Donc, en fait, c'est tant de changements quant à la gestion de la sous-performance dans un contexte de COVID-19 d'un côté.
À partir du vendredi 13 mars, une majorité d'entreprises ont viré au télétravail lorsque c'était possible. À ce moment, seulement 24 cas confirmés de coronavirus étaient rapportés au Québec. Deux semaines plus tard, au 1er avril, c'était 907 cas et le total n'a cessé d'augmenter depuis. Plusieurs entreprises apprendront que quelques-uns de leurs employés sont atteints de ce virus. Chez Alaya Care et District M, lors de l'enregistrement de cet épisode, aucun cas n'était rapporté. Mais quel type d'intervention et surtout de communication les directrices des ressources humaines de ces entreprises ont-elles en tête si un ou plusieurs employés étaient déclarés positifs au COVID-19? Est-ce une information à partager ou à garder confidentielle?
C'est quelque chose qu'on a communiqué cette semaine dans le town hall aussi. Là, c'est pas un plan super évolué. On a dit, si jamais vous êtes malade ou quelqu'un dans votre famille est proche dans le household, quelqu'un est malade, qu'est-ce que Alaya Care peut faire ou c'est quoi les next steps? Puis on a dit, ben si ça vous arrive, laissez savoir votre gestionnaire puis votre partenaire d'affaires RH. Concernant les sick days, prenez ce que vous avez de besoin. Puis on a partagé de l'information qui était disponible selon la localisation des personnes, ce que le gouvernement offrait comme en termes de support. Et ce qu'on va faire quand ça va nous arriver, c'est prendre au cas par cas de savoir comment on peut supporter la personne, parce que les cas vont être différents. On a proposé un framework d'adresser les comme si ça vous arrive, voici les premières étapes. Puis je te dirais que c'est complètement de l'inconnu à ce moment-là pour moi, puis pour les gens dans la compagnie. Ça va être quoi le support qui va être nécessaire? Puis c'est pour ça qu'on va voir à ce moment-là. C'est pas quelque chose que je garderais confidentiel ou que je communiquerais at large. Je pense que c'est par rapport au respect de la personne. Si c'est pas de l'information qui est nécessairement que d'autres personnes, je vois pas finalement la valeur ajoutée de le communiquer at large. Si on pourrait me convaincre du contraire, mais je le garderais comme une information qui est comme propre à l'employé, que ça soit tout type d'information, que ça soit une autre maladie ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose que j'annoncerais comme company-wide. Donc, c'est mon thought process. Après, ça ne m'est pas encore arrivé, ça nous est pas encore arrivé. Donc, peut-être que ça changerait ma réponse. Mais à date, c'est quelque chose que pareil, pas confidentiel, mais pas company-wide communication either. Je respecterais un directeur RH qu'il divulgue ou qu'il ne le divulgue pas, puis à quelle échelle il décide de le communiquer ou non, parce que je trouve que c'est pas une décision facile. Ça peut avoir différentes répercussions à différents niveaux. Encore une fois, être une personne RH que moi j'encouragerais avec, et la discussion que j'aurais avec avec mon président, c'est ok, c'est quoi nos valeurs? Si on se met à la place de nos employés, qu'est-ce que eux s'attendraient de nous? Donc, ça serait beaucoup plus le devoir qu'on se fait par rapport à nos employés, les valeurs qu'on a. Je sais que nous, c'est une valeur de transparence. Donc, si on avait eu des situations similaires, je pense qu'on aurait été amené à dire de comme oui, il y a eu un cas dans tel bureau. Et de le partager, je serais d'accord de pas partager le nom parce que c'est quelque chose qui est vraiment personnel, mais je dirais que c'est pas je trouve que c'est une décision qui est difficile, qui est propre à chaque compagnie, et je me permettrai pas de juger. Je pense vraiment pas, personnellement je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise approche, et j'irai avec ok, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre culture, et ce qu'on pense qui est notre devoir.
Donc, chez Districtem, dès le début de la pandémie ou de l'isolement ou quand on a commencé à travailler de la maison, on a communiqué aux employés que si il y avait quelqu'un qui était atteint de la COVID-19, que c'était important de m'en informer et d'en informer également les gestionnaires pour qu'on puisse l'appuyer, tu sais, dans qu'est-ce qui est disponible, autant au niveau gouvernemental qu'au niveau de nos assurances. Puis on a détaillé vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait comme support à ce moment-là. Ça a été quelque chose qui a été mis de l'avant quand même assez rapidement, parce que on s'est dit que ça peut tellement être anxiogène, insécurisant. Puis il y a peut-être des gens justement qui étaient peut-être atteints, ou que tu sais, qu'on voulait déjà de juste pas savoir ça va être quoi la prochaine étape. Admettons que je suis atteinte ou atteinte de la COVID-19, fait qu'on s'est dit rapidement, pour diminuer justement le stress mental, communiquons rapidement c'est quoi les supports qui sont offerts en cas de COVID-19, c'est pour comme leur démontrer que on va être là en tant qu'employeur, c'est pour vous supporter là-dedans. Après, au niveau de communiquer si une personne est atteinte ou pas, je crois que dans la mesure où que l'information, en fait, n'a pas de répercussion sur d'autres. Je m'explique. Admettons quelqu'un qui a été déclaré atteinte, puis que cette personne-là a été en contact avec plusieurs autres collègues de chez Districtem. Je pense qu'à ce moment-là, c'est un devoir d'information. C'est, par exemple, nous, on a eu un cas où on loue un espace dans Spaces qui est vraiment juste à côté de notre bureau, puis il y a eu un cas dans Spaces qui ne fait pas partie de nos employés. Mais on avait le devoir en tant qu'employeur de communiquer que à telle date, il y a eu un employé, une personne qui s'est rendue dans Spaces, qui est un endroit où que les districteurs peuvent avoir accès également. Donc, on a communiqué l'information. Je pense que j'agirais de la même façon, tu sais, par rapport à un employé. Ça reste confidentiel jusqu'à que ça peut avoir d'impact sur autrui.
En terminant l'entretien, j'ai demandé à Vanessa et à Natacha leurs souhaits face aux apprentissages que leur entreprise allait garder de cette crise. Également, comment la place des ressources humaines allait potentiellement se transformer après cette situation exceptionnelle.
C'est une conversation que j'ai eue avec mon président vraiment early on, que c'est crucial la façon dont on va gérer la crise en tant que compagnie, puis en tant qu'aussi de département RH. Puis je me fais vraiment ce devoir de pousser ça. J'avais trouvé des quotes là-dessus que je trouvais ça vraiment, vraiment bon. Comment on gère une crise, c'est comme ça qu'on va être jugé dans les années à venir. Que là, c'est difficile, mais la façon dont on va traiter nos employés, ça va être... leur réponse va se sentir après, une fois qu'on sera sorti de la crise. Puis c'est facile de faire les bonnes choses quand tout va bien, c'est beaucoup plus difficile de faire les bonnes choses quand ça va pas. Donc je pense que c'est aussi comme ça que l'entreprise va se démarquer, puis que la culture va se démarquer, de comme notre façon de gérer cette crise-là, va déterminer le futur de l'entreprise puis le futur de la culture de l'entreprise, à mon sens. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être aligné avec l'équipe exécutive sur les messages qu'on passe, la façon dont on traite les employés, la façon dont on supporte les employés, la façon dont on prend toutes nos décisions. Je trouve ça vraiment important. Puis, je souhaite qu'une fois qu'on en aura sorti, on aura pris les bonnes décisions et que les employés, tous les employés seront fiers d'être dans la compagnie à la Yaker.
Exact. En fait, j'ai envie de te faire une réponse un petit peu plus large qui est, tu sais, pour toute la perception ou le rôle que les ressources humaines peuvent avoir dans une entreprise. Certaines entreprises sont très aware de l'importance stratégique d'avoir un partenaire d'affaires qui va les guider justement dans la prise de décision reliée à leurs valeurs corporatives, à la culture, de s'assurer de s'ajuster justement, tu sais, à leur population pour, tu sais, être là pour eux, puis à terme, tu sais, créer de la rétention, créer de la productivité, aussi le niveau d'énergie, puis toujours dans un but, tu sais, à terme de faire, tu sais, d'avancer puis de croître en tant qu'entreprise. Je crois que trop d'entreprises considèrent la fonction des ressources humaines comme une fonction exécutante, c'est-à-dire c'est une personne qui va faire du recrutement, qui va prendre un poste, le combler, une personne qui va faire une communication. Je trouve que trop souvent, en fait, le regard envers les ressources humaines est pas à la hauteur, en fait, de l'accompagnement stratégique qu'un partenaire d'affaires peut faire auprès d'une équipe exécutive, auprès de gestionnaires, pour les amener vraiment à poser des actions qui vont leur permettre justement d'atteindre leur objectif. Puis, tu sais, souvent dans les organisations, c'est des gestionnaires qui sont en vue gestionnaire, c'est des gens parfois techniques qui sont en vue là, donc ils ont vraiment besoin d'un accompagnement, tu sais, au niveau de comment gérer la surperformance, le learning, la motivation, l'énergie. Puis, le rôle des ressources humaines, en fait, est vraiment, tu sais, pour bridger ce gap-là, tu sais, puis de s'assurer, tu sais, de voir, de prendre un pas de recul, de voir où est-ce que l'entreprise s'en va, de voir comment sont équipés en ce moment, qu'est-ce qui leur manque, puis de les outiller par rapport à ça. Je pense que la gestion de la crise en ce moment démontre potentiellement, tu sais, dans certaines industries, certaines entreprises, tu sais, possiblement le manque d'outils. Puis je pense que il y a probablement beaucoup de personnes en ressources humaines que ça va leur donner les opportunités de step up, puis de vraiment aller accompagner, puis de se faire valoir en tant que personne ultimement très stratégique pour l'organisation. Puis c'est ce que je souhaite pour la communauté des gens en ressources humaines.
C'est sur ces souhaits de Natacha Brindamour de District M et de Vanessa Ribraud de Ayala Care que se termine cet épisode de Culture Inc., deuxième opus de la série Culture et quarantaine. Je vous invite à suivre très bientôt la sortie de l'épisode 3 où on explore avec 4 coachs en entreprise la pratique de coaching en télétravail et comment l'isolation affecte leurs coéquipiers après un mois de confinement. Merci de votre écoute, ici Mathieu Etu et je vous dis à très bientôt.